dans le chapitre 2, « J'ai été faible, craintif, tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc Paul montre ici son exemple, hein, ses limites, ses difficultés, ses craintes, bref, son humanité. Il dit « Moi, je suis pleinement humain. » Pourquoi il fait ça? Afin que ce ne soit pas lui qui soit vu puissant, mais que ce soit, comme il est dit ici, une démonstration d'esprit et de puissance. Au chapitre 3, on parle d'Apollos. Qui donc est Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Donc Paul ici nous rappelle simplement son rôle de serviteur et plus généralement le rôle des serviteurs de Dieu. Et nous sommes tous finalement, des fois les serviteurs, c'est qui? C'est les pasteurs, c'est les prophètes, on est tous appelés à être serviteurs de Dieu. Donc on est tous et toutes égaux, chacun a son rôle, mais au final c'est Dieu qui donne la croissance spirituelle, la croissance au niveau personnel, mais aussi au niveau communautaire. Dans le chapitre 4, on arrive au texte que j'ai lu au début, un passage avant qui nous parle du jugement. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. 1 Corinthiens 4, 1 à 15. On parle de jugement, de se juger, des fois aussi de juger, est-ce que celui-là est sauvé? Donc on est des fois un petit peu des juges, hein. Je ne sais pas si vous sentez aussi des fois ça. Mais ce qui est, je pense, en tout cas ce que je retiens de ce passage, c'est que notre jugement peut être biaisé. Il peut être incomplet et il peut même être faux parfois. Tout simplement parce qu'on ne voit pas dans les cœurs, et c'est que Dieu qui voit dans les cœurs. Donc ici, comme Paul, ne nous mettons pas à la place du juge ultime finalement, celui qui, je cite, « mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera les intentions des cœurs. » Et ensuite, pour terminer ce passage, je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. L'église de Corinthe, elle vous laisse débrouiller seule, hein, en gérant ses rivalités internes sans aide externe. Et puis Paul voit dans ce comportement de l'orgueil et il supplie cette église, en premier donc ses leaders, à l'imiter. On peut se dire, c'est un petit peu gonflé, hein, comme on dit, imitez-moi. Moi, je sais. Je pense que venant de Paul, avec tout ce qu'on a vu avant, avec ses faiblesses, je pense qu'il avait quand même une opinion de lui-même assez juste. On l'accepte. Et c'est un exemple à imiter parce que c'est un exemple aussi qui a vécu plein de choses qui ont fait qu'il ne s'est pas enflé d'orgueil. Donc, imitons Paul. Et puis ici, voilà, qui rappelle, hein, et il va envoyer Timothée là-bas pour le rappeler ses principes de vie en Christ. Il avait des principes de vie en Christ. Et nous arrivons à ce passage que je relis encore une fois. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous, mais je viendrai bientôt, si c'est la volonté du Seigneur. Et je prendrai connaissance, non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et puis la fin de la lettre, rapidement, donc Là, il y a une remise à l'ordre hein, que Paul fait. Vous connaissez, je pense, ces passages. Il y a des désordres sexuels, des moraux dans l'Église. Il y a des scandales dans les procès entre chrétiens. Ce n'est pas rose hein, ce qui se passe à Corinthe. Et puis, il répond aussi à des questions. Donc, ce n'est pas uniquement des reproches ou des remises à l'ordre, mais c'est aussi des questions que cette Église lui a posées sur le mariage, le célibat. On ne va pas entrer sur ces sujets maintenant, les viandes sacrifiées aux idoles. Et finalement, Paul explique comment il voit et vit la liberté en Christ et son choix d'une discipline stricte pour remporter la course. Cette image du sportif qui remporte, qui veut aller jusqu'au bout pour remporter la course. Il rappelle aussi aux Corinthiens comment Dieu a traité Israël, leurs ancêtres, dans le désert et les conséquences de leur désobéissance. Ça, c'est au chapitre 10. Et puis, cette première lettre aux Corinthiens se termine par une invitation à tout faire pour la gloire de Dieu, avec cette conclusion que j'aime bien. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, alors ça on peut encore s'imaginer, mais quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors venons-en maintenant à ce que ce texte veut nous dire pour nous aujourd'hui. J'ai retenu trois sujets ou trois enseignements que je souhaite partager avec vous. Et puis, pour chaque partie, donc il y a deux chants qui vont suivre, des chants pour illustrer ce que je vous ai partagé, pour intégrer ce qu'on a entendu, mais pour s'adresser aussi tous ensemble à Dieu. Je trouve que c'est aussi plus interactif. Je vous apporte des choses. Ensuite, on se met ensemble, on chante ensemble, on loue Dieu. On s'engage aussi à des prières aussi d'engagement. Et Dieu agit avec puissance parmi nous. Alors le premier point, je peux mettre la slide suivante. Le premier point, c'est la volonté de se débrouiller seul, en n'ayant besoin de personne. C'est ce qu'ils semblent avoir voulu faire, les Corinthiens, finalement, on peut se débrouiller seul. Et ça, c'est quelque chose d'assez humain, donc plus ou moins fort selon notre besoin d'indépendance. Hein, je me débrouille tout seul. Là, je pense qu'il y a aussi un peu de différence entre personnes, entre caractères, entre générations. On parlait l'autre jour avec quelqu'un, on parlait des jeunes. Il me disait, mais les jeunes, ils sont plus, on a besoin de l'autre, hein, je ne me débrouille pas tout seul. Nous, les générations un petit peu plus anciennes, on est des fois, je me débrouille seul, je suis indépendant. Puis en même temps, il y a un certain danger à se débrouiller seul, c'est l'orgueil, à un moment donné que ça nous monte à la tête. Et c'est finalement ça qui a précédé la chute du premier homme, il était rempli d'orgueil, à tel point qu'il a voulu devenir comme Dieu, et c'est ça qui a précipité sa chute. Et dans la Bible, il y a beaucoup de passages. Hein. S'il y a des sujets qui sont vraiment soulignés en noir, ou respectivement surlignés pour dire c'est quelque chose de condamnable, c'est bien l'orgueil, respectivement l'orgueilleux. Il y a beaucoup de passages, je ne les ai pas comptés, je vous en donnerai juste trois échantillons, trois versets. « Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. » Proverbe 16, verset 5. « Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur est devenu orgueilleux. » Voilà pourquoi ils m'ont oublié. Osée 13, verset 6. Et encore un troisième passage dans le Nouveau Testament, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière, ou dans certaines versions captive, pour qu'elle obéisse à Christ. Et vous savez que l'orgueil, dans les sept péchés capitaux, il est en tête de liste. Hein. Les sept péchés capitaux que l'Église catholique a définis aussi avec Thomas d'Aquin, l'orgueil est en tête de liste. En même temps, c'est un danger, mais en même temps, c'est important aussi de trouver un équilibre entre une indépendance personnelle et le besoin de l'autre. Selon notre vécu, selon notre nature, selon notre caractère, on est plutôt des gens indépendants ou plutôt des personnes qui dépendent des autres, qui ont besoin des autres, qui sont même, on parle des fois de dépendance ou de codépendance, quand ça devient un peu plus maladif, on ne peut pas faire sans les autres. Mais je crois que Dieu travaille avec chacun de nous de manière différente, et ce qui est souvent le cas avec Dieu, il agit avec un, il insiste, je dirais, sur un dans un domaine, et sur un autre, il insiste plutôt sur autre chose. Pour l'un, Dieu dira peut-être, mais vas-y, choisis, prends ta responsabilité, fais librement, en toute indépendance des choix. Puis nous, on serait là, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Mais choisis. C'est peut-être ça pour certains. Et pour d'autres, Dieu dira, mais ne t'entête pas à faire tout seul. Tu vois qu'il y a des autres pour t'aider, te montrer où tu en es. Et c'est un peu Paul ce qu'il a voulu faire avec les Corinthiens. Il a voulu aller les visiter pour leur montrer où ils en étaient. Parce qu'ils avaient un peu, s'étaient entêtés dans une façon aussi de vivre l'Église et dans certaines dérives qu'il avait besoin d'être un peu leur miroir et de leur montrer où ils en étaient. Donc voilà, Dieu, je pense, entre ces deux, il peut nous parler aussi. Ça dépend où on en est dans notre vie de foi. Et je pense, on a tous besoin de l'autre, hein, et à commencer par l'autre avec un grand A, le tout différent, Dieu, celui qui comble nos besoins les plus profonds. Il peut faire comme aucun humain ne peut le faire. Et reconnaissons donc que nous avons besoin de lui, que sans lui on n'est rien, on est perdu, on ne sait pas qui on est. Et avec Dieu, non seulement il nous dit qu'on a besoin de lui, mais en général, comme il nous a créés comme des êtres relationnels, il nous dit aussi assez vite, tu as les autres autour de toi, hein. Il y a moi, je suis là tout puissant, je suis toujours là, je suis à tes côtés, même si tout le monde t'abandonne, je suis là, mais n'oublie pas qu'il y a les autres à côté. Alors on va prendre ce chant suivant qui dit « Je le reconnais ». Le deuxième point que j'ai retenu de ce passage, c'est l'importance de soumettre nos choix à la volonté de Dieu. Hein, Paul, il dit ici, je viendrai bientôt, si c'est la volonté de Dieu, hein, comme c'est écrit dans ce passage. Et comme on le prie souvent, je pense que s'il y a une prière qu'on dit plus régulièrement, Seigneur, que ta volonté soit faite. On veut que la volonté soit faite, et c'est juste, et c'est nécessaire. Hein, d'une part, c'est un respect, une crainte de Dieu, une dépendance de lui, finalement un choix de le suivre, un choix de répondre à son appel et à le suivre jusqu'au bout. Et là, on va prendre ce chant, « La voix du Seigneur m'appelle ». C'est un ancien chant qui a été réactualisé. En tout cas, il est dans le GEM, le 1161. Donc, c'est un chant d'engagement. C'est un chant qu'on dit jusqu'au bout, on va le suivre, Jésus. Soumettre notre volonté à lui. Troisième point, c'est aussi le sujet sur lequel je m'attarderai un petit peu plus longtemps, c'est le royaume de Dieu se voit grâce à la puissance agissant dans les personnes. On a l'impression que Paul ne se fie pas trop aux paroles. Il a un peu une forme de méfiance ici, parce qu'il va aller voir de ses propres yeux, constater ce qui se passe, comment la parole, finalement, ce qu'il entend, les beaux discours peut-être, agit dans l'église de Corinthe. Il se dit peut-être, est-ce que c'est que des bons parleurs ? Il y a une émission qui s'appelle « Les bons parleurs » à la radio RTS. Donc, ça parle beaucoup. Est-ce qu'ils sont puissants? Je ne sais pas. Ou est-ce que ce qu'ils disent, ces personnes, ils parlent d'orgueil, hein, ces personnes orgueilleuses, il n'a pas dit forcément qu'ils ne sont pas puissants, mais est-ce que ce qu'ils disent, qui a l'air d'être quand même un peu de l'orgueil, est-ce que ça se traduit en action puissante dont la source est le Saint-Esprit, hein, c'est, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et le mot grec pour parole, il est connu, hein, c'est « logos », qui a différentes significations. Ici, dans ce texte, il s'agit simplement de message, de communication. Au verset 19, il parle aussi de ça. Ça veut dire plutôt le discours. Donc, ça veut dire que le royaume de Dieu n'est pas simplement fait de communication, de beaux discours. Hein, on dit des fois faire une bonne communication et puis tout marche. Mais apparemment, ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Ou des discours bien rodés pour convaincre, surtout quand ils sont un peu enflés d'orgueil et qu'ils ne correspondent pas à de réels changements qui sont opérés grâce à la puissance de Dieu. Mais le mot « logos », vous le savez certainement, il va aussi parler dans un autre, c'est le même mot, mais il a une autre signification, c'est Jésus, hein, la parole faite chair, comme c'est écrit dans Jean 1, 1 à 4. Au commencement, la parole. existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc voyez si la parole, donc Jésus, la parole incarnée, les paroles, ce qu'on peut dire, c'est le même mot grec, hein, c'est le même, mais je vois une différence assez fondamentale quant à la source. Hein, il y a, est-ce que la source est en Dieu? Est-ce que la source est en nous? Et la puissance de cette parole aussi pour transformer, pour nous transformer. Alors des beaux discours, ils peuvent influencer, mais j'ai l'impression de manière superficielle. Et la parole de Dieu, elle transforme, mais de l'intérieur, de manière réelle et profonde, et j'ai envie de dire aussi durable. Et la puissance, vous allez me dire, qu'est-ce que ça signifie dans ce verset? Ben, c'est le mot grec dynamai ou dynamis qui se trouve derrière ce mot puissance. Et comme il est utilisé ici, c'est dans le sens de pouvoir, d'être capable de. Donc, qui dit pouvoir dit avoir de l'influence. Et souvent, c'est quand même utilisé souvent dans le cas où c'est considéré comme une influence qui est sur la réalité autour de nous, mais de manière surnaturelle. Mais pas que, c'est aussi utilisé, souvent utilisé ça, mais pas uniquement. Donc c'est notre capacité de pouvoir faire quelque chose. Donc ça va un peu plus, c'est des fois un peu difficile ce mot puissance. Hein. On a déjà parlé, je crois, au week-end d'église, on voit des fois tout de suite la toute-puissance. Mais c'est simple, c'est aussi la capacité de faire, être capable. On reviendra tout à l'heure par rapport aussi à la culture de l'honneur. Et figurez-vous dans le verset, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est le même mot qui est utilisé, avec la même signification. Donc ce n'est pas quelque chose, ça nous tombe dessus et ça marche. Hein. C'est on devient puissant. Il y a quelque chose de l'ordre, ça communique. Alors la source, bien sûr, c'est en Dieu, hein, on s'entend. Mais il y a quelque chose de l'ordre de on devient influent. On a un pouvoir, une forme de possibilité d'agir parce que le Saint-Esprit nous y pousse aussi. Donc si le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles au pluriel, il consiste à avoir du pouvoir, de l'influence, souvent de manière surnaturelle. Et ce surnaturel, c'est le Saint-Esprit en nous hein, qui fait de nous des influenceurs, qui nous rend aptes d'exercer un pouvoir, mais délégué au travers de Jésus. Hein, je pense à ces mots que Jésus a envoyés en mon nom, ils feront des miracles en mon nom. Il y a quelque chose de l'ordre d'une délégation. Est-ce que nous en sommes toujours conscients ? Aujourd'hui, hein, 2000 ans après, de ce pouvoir qui nous est par le Saint-Esprit en nous. Exerçons-nous ce pouvoir. Hein, on prie, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Des fois, on s'attend à beaucoup de choses, des fois, on ne voit pas. Mais alors, il y a cette manière de voir aussi. Hein, des fois, c'est nos regards qui sont aussi un petit peu, il y a peut-être un peu des filtres aussi, sur comment Dieu agit, comment ce pouvoir se manifeste au travers de nos vies. Donc, rappelons-nous que ce pouvoir hein, prend sa source en Dieu. C'est lui qui nous rend aptes, qui nous prend avec lui. Hein, je crois que tu as voulu dire, Valérie, qui nous associe, c'était un peu ça l'idée, qui nous prend avec. Et j'aime bien, il agit, il nous prend avec pour exercer son pouvoir sur la terre. Ce n'est pas lui et nous, c'est lui avec nous. Et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'incarnation là-dedans. Parfois, on peut être soit on ne fait rien, on laisse Dieu agir, ou l'inverse. On fait tout, puis on ne laisse pas Dieu agir. J'aimerais résumer ça sous forme d'une équation. C'est mon côté un peu scientifique ici. Je ne l'ai pas mis là, mais je peux. Alors, j'ai mis humilité, hein, qui est un peu l'antidote à l'orgueil, plus soumission à la volonté de Dieu, égale puissance. Prenez-la, elle vaut ce qu'elle vaut. Humilité, que je vois un peu comme l'antidote à cet orgueil, plus soumission à la volonté de Dieu, égale puissance. Parce que je l'ai mis un peu en... J'ai l'impression que cette église de Corinthe, elle avait de l'orgueil. Elle avait une indépendance de Dieu, elle faisait comme elle veut, elle ne se soumettait pas. Et elle avait des belles paroles, mais apparemment pas beaucoup de puissance. En tout cas, il en doutait, Paul. Hein. Il en doutait que c'était des paroles, mais pas beaucoup de puissance. Ça n'impactait pas les gens, en particulier cette ville de Corinthe. Donc on veut ensemble prendre ce chant suivant pour proclamer que Dieu sauve au travers de Jésus, qu'il agit avec puissance par son esprit, en nous prenant avec lui dans son action. Sauve avec puissance. Et le laisse agir dans leur vie. Donc voir la gloire de Dieu, ce n'est pas les yeux fermés, c'est les yeux ouverts vers l'autre. C'est l'honorer. On a parlé de la culture d'honneur et c'est lié avec la puissance. Donc honorer quelqu'un, c'est lui donner la possibilité d'être puissant. Honorer quelqu'un, c'est lui donner la possibilité. Admettons quelqu'un a un don dans quelque chose et puis vous l'honorez, vous dites vous l'encouragez et tout. Ça lui donne la puissance d'exercer ce don. Par contre, si vous lui dites, écoute là, attention, bof, paf, bon, ça va, qu'est-ce qu'il va faire avec ce don? Au mieux, il va dire, je bosse, je peux y arriver, peut-être j'arriverai un jour. Au pire, il s'arrête, il ne fait plus rien. Donc, pour dire un peu l'honneur, connaître l'autre dans ce qu'il a, donne à cette personne la puissance, finalement, d'être un instrument. Comme Dieu nous honore, il nous donne son esprit qui agit en nous, et par nous, avec puissance, nous sommes aussi invités à honorer notre sœur, notre frère, dans sa différence, et surtout dans la manière dont l'Esprit Saint agit en lui et au travers de lui. Alors, on va prendre ce chant. Il me semble qu'on l'a pris une fois tout au début que j'étais dans l'Église. « Je vois la gloire de Dieu en toi ». Ça vous dit quelque chose? C'est un chant où on dit à l'autre, alors vous pouvez un peu vous regarder, « Je vois la gloire de Dieu en toi ». Je vois la gloire de Dieu en toi, je vois tout ce qu'il a fait, je vois tout ce qu'il fait et je vois tout ce qu'il fera. Là, c'est le côté vision. Peut-être qu'il y a des choses qu'on voit aujourd'hui chez un, c'est un petit peu une semence, c'est encore petit. Et si Dieu nous donnait les yeux pour voir cette semence, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est ça, voir la gloire de Dieu. Alors, je vois la gloire de Dieu en toi. Eh bien, je vous invite quelques minutes, je garde un petit peu l'heure où on en est là. Quelques minutes, vous mettez avec deux personnes autour de vous. Restez simplement debout pour vous asseoir, vous êtes plus à l'aise. Et puis, échanger sur les questions, on peut peut-être mettre les questions, le slide là. Qu'est-ce que je vois de spécifique de la gloire de Dieu dans l'autre que je veux honorer? C'est la première question. Alors, je suis bien conscient, si vous ne connaissez pas beaucoup, ce sera plus dur, hein. Mais si vous ne connaissez pas beaucoup, peut-être dire quelque chose de vous alors. Voilà, moi, il me semble que j'ai un don là, puis vous l'écoutez, vous l'honorez. Donc, qu'est-ce que je vois de spécifique de la gloire de Dieu dans l'autre et que je veux honorer? Un don, un comportement. Et puis, la deuxième question qui va avec, qui demande peut-être un petit peu plus de faire le lien, qu'est-ce qu'il y a de puissant? Qu'est-ce qu'il y a d'influent? Qu'est-ce qu'il y a de dynamique là-dedans? On a parlé de dynamisme dans cette spécificité. Qu'est-ce que vous voyez dans ce don, dans ce comportement qui a une influence? Peut-être que vous voyez quelque chose aujourd'hui déjà, voilà, dans la personne que vous connaissez. Là, vous voyez que c'est puissant. Là, ce qu'il dit, mais ça touche. Je ne sais pas, hein, ça peut être pas mal de choses, quoi. Donc, échanger sur qu'est-ce qu'il y a de spécifique de la gloire de Dieu et qu'est-ce qu'il y a de puissant dans cette spécificité que vous voyez.